Le Monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro, au sommaire de cette édition du lundi, du mercredi 5 juin 2024. Nous y sommes. Le président américain Joe Biden effectue une visite d'État de 5 jours en France, où il participera au 80e anniversaire du débarquement. Au Burkina Faso, la Russie promet une augmentation des instructeurs et du matériel militaire pour renforcer les capacités de défense du pays. Dans le nord du Bénin, 7 soldats ont été tués dans un parc national. Le Niger crée une force de protection des sites stratégiques du pays contre les attaques terroristes. Au Togo, plus de 39 milliards de francs CFA ont été injectés dans les filets sociaux et les services de base.
J'ai bénéficié de 120 000 francs. Une somme qui m'a permis à payer un mouton. Le mouton là m'a permis à avoir 4 moutons. Vraiment, ça m'a permis à aider mes enfants à aller à l'école.
Le reportage à suivre dans la partie magazine. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Le président américain Joe Biden est arrivé aujourd'hui en France où son homologue français Emmanuel Macron lance les commémorations du débarquement allié du 6 juin 1944 avec la volonté d'afficher l'unité des Occidentaux sur fond de guerre en Ukraine. Jacques Aristide.
Le président américain était attendu à sa descente d'avion à Paris par le premier ministre français Gabriel Attal. Joe Biden va rejoindre les plages normandes demain pour le 80e anniversaire du D-Day qui a permis de libérer l'Europe de l'Allemagne nazie. Il y retrouvera le roi Charles III, le chancelier allemand Olaf Scholz, le chef de l'État italien Sergio Mattarella, mais aussi le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Vendredi, Joe Biden va prononcer un discours à la pointe du Hoc, toujours en Normandie, sur l'importance de défendre la liberté et la démocratie selon la Maison-Blanche. Symbole fort, la Russie alliée des États-Unis et du Royaume-Uni contre l'Allemagne nazie a été formellement exclue des cérémonies en raison de son invasion de l'Ukraine. Samedi à Paris, le président Biden sera accueilli à l'Arc de Triomphe avant des entretiens et un banquet à l'Élysée avec son homologue Emmanuel Macron pour sa première visite d'État en France.
Israël a annoncé aujourd'hui le lancement d'une nouvelle offensive militaire contre le Hamas dans le centre de la bande de Gaza, où les services de santé palestiniens ont fait état de dizaines de morts dans des frappes aériennes, compliquant les tractations diplomatiques en vue de parvenir à un cessez-le-feu. L'armée israélienne a déclaré que ces avions de chasse visaient des cibles du Hamas dans le centre de la bande de Gaza, tandis que ses troupes au sol opéraient sur la base d'informations transmises par les services de renseignement dans le secteur d'Al-Bourej, l'un des camps de réfugiés de l'enclave palestinienne. Toujours en Israël, un cortège de milliers de Juifs a défilé dans les rues de Jérusalem pour un défilé israélien nationaliste. Les marcheurs célèbrent la journée de Jérusalem qui commémore la réunification de la ville sainte en 1967 après la conquête de la partie orientale de la ville par l'État hébreu. Le premier ministre slovaque Robert Fico, victime d'un attentat à la mi-mai, s'est dit prêt ce mercredi à reprendre ses activités à partir de fin juin dans une vidéo publiée sur Facebook, s'exprimant pour la première fois depuis qu'il a été touché par plusieurs balles tirées à bout portant. M. Fico a déclaré qu'il pardonnait aux tireurs et a annoncé qu'il serait prêt à reprendre progressivement ses fonctions à partir de fin juin.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'actualité sur le continent, le nombre d'instructeurs russes au Burkina Faso va augmenter d'après le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, en visite à Ouagadougou, dans le cadre de sa nouvelle tournée africaine. Alexandrine Ollonion nous en dit plus.
Des instructeurs russes travaillent ici et leur nombre va augmenter, a déclaré Sergueï Lavrov lors d'une conférence de presse dans la capitale burkinabé. Il a également affirmé que le partenariat avec le Burkina Faso, axé sur la formation des représentants des forces de l'ordre burkinabé, a beaucoup progressé. Arrivé au Burkina Faso mardi soir dans le cadre d'une tournée africaine, le chef de la diplomatie russe a rencontré le chef du régime militaire, le président Ibrahim Traoré. Nous entretenons des relations de longue date avec le Burkina Faso et avec l'arrivée du président Traoré au pouvoir, ces relations ont reçu une nouvelle impulsion, a affirmé Sergueï Lavrov, qui assure qu'avec cette coopération, les postes de terrorisme qui restent au Burkina Faso seront détruites. Le Burkina Faso est la troisième étape de la tournée africaine du diplomate russe, après la Guinée et le Congo. Après Ouagadougou, il doit se rendre à N'Djamena.
Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a donc conclu ce mercredi au Tchad une mini-tournée en Afrique de l'Ouest et centrale, semée de propos aux forts accents anti-occidentaux. Monsieur Lavrov a atterri, je vous le rappelle, à N'Djamena, en milieu d'après-midi, à la tête d'une imposante délégation. L'armée du Niger a annoncé la création d'une force de protection contre les attaques sur les sites stratégiques, notamment les mines d'uranium et les puits pétroliers. Le point avec Rosine Monizero.
Ce commandement des forces pour la protection et le développement vise à mieux garantir la protection des sites et installations stratégiques, a expliqué le colonel Munkaila Sofiani, directeur des études stratégiques au ministère nigérien de la Défense. Il s'agit de prévenir les actes de sabotage, les attaques terroristes et toute autre menace sécuritaire sur les sites d'intérêt stratégique, a-t-il dit. Parmi les endroits protégés figurent les mines d'uranium dans le nord du pays et les puits pétroliers dans le nord-est, avec un accent particulier sur le pipeline de près de 2000 km qui achemine l'or noir au port béninois de Sem. Les corridors pour les importations et exportations des marchandises, dont l'axe routier Lomé-Ouagadougou-Niamey, font aussi partie des lieux à surveiller. Une campagne de recrutement de 10 000 hommes sera lancée le 1er juillet pour rehausser les effectifs militaires et pourvoir cette force, l'objectif étant d'atteindre 100 000 éléments d'ici 2030. Plusieurs régions sont touchées par les violences, notamment l'Ouest, proche du Mali et du Burkina, où les groupes djihadistes sont restés actifs, et le Sud-Est, près du lac Tchad et du Nigeria, où sévissent Boko Haram et sa branche dissidente, le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest.
Au Nigeria, l'effondrement d'une mine suite à des pluies torrentielles dans le centre a fait au moins un mort. Une trentaine de mineurs sont bloqués sous terre depuis 4 jours dans le village de Kalgoko, dans l'État du Niger. Le nombre exact de mineurs piégés n'est pas connu dans l'immédiat et les secours n'ont pas pu se rendre à la zone de l'effondrement en raison de l'insécurité qui règne dans le district de Chiroro. En Côte d'Ivoire, 14 corps de personnes tuées lors de la crise post-électorale de 2010-2011 qui a fait quelque 3000 morts ont été remis par le gouvernement à leurs familles lors d'une cérémonie aujourd'hui à Abidjan. Un montant d'1 500 000 francs CFA a été remis par le gouvernement à chaque famille par chèque à la fin de la cérémonie. 7 soldats ont été tués mardi par des hommes armés non identifiés dans le parc national de la Pendjari, dans le nord du Bénin, épicentre des violences djihadistes dans le pays. Délidico.
Un responsable de l'armée a annoncé mercredi la mort de 7 personnels des forces armées béninoises. L'information a été confirmée par une autre source sécuritaire sous le couvert de l'anonymat. Ils n'ont pas donné de détails sur les circonstances de l'attaque. La région frontalière avec le Burkina Faso, où est situé le parc national de la Pendjari, est l'épicentre des attaques qui ont augmenté ces dernières années et sont attribuées par les autorités à des combattants du groupe État islamique et d'Al-Qaïda venus de pays voisins. En mai, l'armée béninoise a annoncé avoir tué 8 djihadistes dans le nord. Les autorités béninoises, qui ne communiquent que très rarement sur ces attaques, faisaient état en avril 2023 d'une 20aine d'incursions transfrontalières depuis 2021. En janvier 2022, le Bénin a déployé près de 3000 soldats pour sécuriser ses frontières dans le cadre d'une opération baptisée Mirador pour faire face à ces attaques.
En République démocratique du Congo, une 15aine de civils ont été tués hier dans l'Est dans une nouvelle attaque attribuée au groupe ADF affilié au groupe État islamique. Cette incursion a eu lieu dans la matinée dans le village de Masso, à la limite des territoires de Beni et de Mambasa. Toujours en RDC, une 30aine de personnes arrêtées dans le cadre des enquêtes sur la tentative présumée du coup d'État du 19 mai dernier à Kinshasa vont comparaître vendredi pour le début de leur procès devant le tribunal militaire de la capitale. Parmi les prévenus, 3 Américains, Marcel Malanga, le fils du leader présumé des putschistes, Christian Malanga, abattu durant l'opération, et et deux de ses complices blancs, mais aussi un expert et analyste pour les médias en matière de sécurité, Jean-Jacques Wondo, qui travaillait pour depuis un certain temps comme conseiller de l'administrateur de l'Agence nationale des renseignements, ainsi que d'une trentaine d'autres personnes. Ils sont tous accusés, entre autres, d'attentats, tentative d'assassinat, terrorisme et financement de terrorisme. Et puis, en Afrique du Sud, l'ANC s'emploie à former un gouvernement d'union nationale en parlant à toute l'opposition à annoncer aujourd'hui ce parti la piste d'un gouvernement de coalition comme l'option d'un gouvernement minoritaire dominé par l'ANC sont sur la table, mais le parti envisage un gouvernement d'unité nationale parce que c'est ce que le peuple sud-africain nous a dit, a déclaré sa porte-parole. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Nani Talani.
La Côte d'Ivoire a abaissé de 20%, soit à 1 million de tonnes, ses prévisions de production de noix de cajou pour 2024, en raison des mauvaises conditions météorologiques, selon la Direction générale ivoirienne du Conseil du coton et de l'Anacard. La prévision initiale pour la campagne en cours était de 1,25 million de tonnes. En Égypte, les usines d'engrais ont temporairement fermé en raison des pressions accrues sur l'approvisionnement exercé sur le réseau de gaz naturel par la consommation qui ont entraîné des perturbations sur l'offre et des températures élevées qui ont poussé à l'utilisation de plus de gaz pour la production d'électricité. L'approvisionnement en gaz reprendra progressivement à partir de demain jeudi, a annoncé le ministère du Pétrole. Pour terminer, la Sierra Leone est en négociation avec le géant russe de l'aluminium Rusal sur une concession minière de bauxite. En marge du Forum économique international de Saint-Pétersbourg en Russie, le ministre libérien des mines, Julius Mattei, a affirmé que sa délégation a eu des réunions au cours desquelles Rusal a montré beaucoup d'intérêt pour l'ouverture d'une concession minière de bauxite en Sierra Leone. Rusal, premier producteur mondial d'aluminium hors Chine, est déjà présente en Guinée.
Place maintenant au sport avec Eric Manirakiza. Bonsoir Eric.
Bonsoir Jean-Roger.
La CAF envisage de décaler la prochaine Coupe d'Afrique à début 2026.
La Confédération africaine de football envisage de décaler la prochaine Coupe d'Afrique de l'été 2025 au début d'année 2026 pour éviter la collision dans le calendrier avec la Coupe du Monde des clubs, a-t-on appris ce mercredi auprès du secrétaire général de la CAF. Initialement programmée au Maroc à l'été, la 35e édition de la CAN télescoperait le mondial des clubs à 32 équipes que la FIFA organise aux États-Unis du 15 juin au 13 juillet 2025. Le tirage au sort des qualifications pour la prochaine Coupe d'Afrique n'a pas encore été effectué entre les 48 équipes restantes après les barrages du mois de mars 2024 qui ont permis au Tchad, au Libéria, au Soudan du Sud et à Eswatini de rejoindre cette phase. La CAN suivante doit se dérouler dans trois pays, l'Ouganda, le Kenya et la Tanzanie. Elle était programmée en 2027 mais pourrait également être décalée.
Euro 2024, choc attendu dans le groupe le plus relevé du tournoi.
L'Italie championne d'Europe en titre, tout comme l'Espagne, sacrée en 2008-2012 et la Croatie finaliste du Mondial 2018 et de la Ligue des Nations, devront se sortir du groupe le plus relevé de l'Euro 2024 qui va offrir le premier choc de la compétition entre Italiens et Espagnols le 20 juin. Face à ces trois géants, l'Albanie qui complète le groupe B aura du mal à exister.
Antonio Conte, nouvel entraîneur de Naples.
Naples, champion d'Italie 2023 en proie à une grande instabilité cette saison, sera désormais entraîné par l'ancien sélectionneur italien Antonio Conte, a annoncé sur X son président et propriétaire Aurelio De Laurentiis mercredi. Passé également par la Juventus Turin 2011-2014, Chelsea 2016-2018 et l'Inter Milan 2019-2021, Conte, 54 ans, était libre de tout contrat depuis son départ de Tottenham en mars 2023. Il est le cinquième entraîneur du Napoli sur les 12 derniers mois.
Italie, Tudor va déjà quitter la Lazio.
L'entraîneur croate Igor Tudor, en désaccord avec ses dirigeants, va quitter la Lazio Rome après seulement 3 mois en poste, rapporte la presse italienne ce mercredi. Selon notamment la Gazzetta dello Sport et la chaîne de télévision Sky Sports, Tudor et la Lazio sont en train de négocier les termes de leur séparation. Contactez la Lazio Napoli.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Togo, le projet de filets sociaux et services de base, mis en œuvre depuis 2017, permet d'améliorer le quotidien des populations pauvres et vulnérables. Des repas gratuits sont fournis aux élèves de plus d'une centaine d'écoles primaires. Le transfert de fonds aux ménages les plus démunis leur permet des activités génératrices de revenus et la construction des infrastructures de base. Plus de 39 milliards de francs CFA ont été injectés dans le projet de Lomé, notre correspondant Kossi Wousou.
Depuis quelques années, Boubacar manquait de moyens pour faire de l'élevage afin de subvenir aux besoins de sa famille. Une subvention du projet de filets sociaux et des services de base du gouvernement togolais lui a permis de réaliser son rêve.
J'ai bénéficié de 120 000 francs, une somme qui m'a permis à payer un mouton. Le mouton là m'a permis à avoir 4 moutons. Vraiment, ça m'a permis à aider mes enfants à aller à l'école. Ça m'a permis aussi à soigner mes enfants.
L'un des axes du projet FSB concerne un meilleur accès des communautés et des ménages les plus pauvres aux filets sociaux. Dans la commune Kwendial-Ouest, dans la région des Savanes, dans le nord du pays, le maire Moali Boukari a pu constater l'impact positif du projet sur la vie de ses administrés.
Je cite toujours l'exemple de cette femme-là qui, après avoir reçu 100 000 francs de transfert, s'est lancée dans l'agriculture. Elle nous a dit qu'avec la récolte de 7 premières année, elle a pu épargner 200 000 francs.
Mazalo Katanga est la directrice générale de l'Agence nationale d'appui au développement à la base qui met en œuvre le projet.
Aujourd'hui, on peut s'applaudir. Nous avons commencé avec 61 000 ménages pour le projet par an, puis après 125 000 ménages pour la phase additionnelle. Donc, des ménages ont reçu 120 000 francs avec des bonus, d'autres ont reçu dans la phase additionnelle 90 000 francs avec 100 000 francs de bonus pour réaliser les activités génératives de revenus. Nous avons commencé avec un accompagnement uniquement du milieu rural, mais la phase additionnelle a connu l'implication du Grand Lomé.
La Banque mondiale, qui a participé au financement à hauteur de 28,2 milliards de francs CFA, est satisfaite des résultats obtenus. Rafaela Beatrice Carlen, de la représentation de la Banque mondiale au Togo.
Notre satisfaction d'avoir accompagné le gouvernement et d'avoir répondu avec succès aux attentes des communautés bénéficiaires ne nous empêche pas de reconnaître que la réduction de l'extrême pauvreté et de la vulnérabilité doit se poursuivre tout en tirant des leçons de l'expérience du projet pour bâtir un système solide et durable de protection sociale adaptative.
Myriam Doussou d'Almeida, la ministre chargée du développement à la base, apprécie.
Grâce à ce partenariat, nous avons pu apporter des améliorations significatives dans la vie des populations les plus vulnérables de notre pays. Grâce à ces initiatives ciblées, le gouvernement parvient à combattre la pauvreté de manière proactive et à améliorer la qualité de vie des citoyens.
Le projet FSB s'achève à la fin de cette année. Un nouveau projet, dénommé Assistance sociale transformatrice pour la résilience, va prendre le relais en vue de sortir environ 1,5 million de personnes de la pauvreté. Kossi Wousou, Lomé pour VOA Afrique.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24h sur 24.
Rendons-nous à Koro, dans la région malienne de Bandiagara, pour parler de la revalorisation du textile local au plateau Dogon. Le bogolan, l'indigo et les pagnes tissées sont fabriqués par les artisans de la région, des produits qui reflètent l'identité culturelle de la région de Bandiagara. Malgré la crise sécuritaire qui a eu un coup dur sur le secteur, les artisans travaillent pour la revalorisation du textile traditionnel. De Koro, la correspondance de Tidiane Ouedraogo.
Salutations matinales sur les grands arbres du village. Ici, les femmes se retrouvent tous les jours pour transformer le coton en fibres. Ce travail est un héritage familial pour certaines d'entre elles comme aliment.
La transformation du coton est un héritage familial, une tradition qu'on doit respecter.
Le tissage est un travail complexe. Nous sommes dans le village de Ejubara. Les femmes transforment le coton en fibres et semblent tirer profit de cette activité.
Nous transformons le coton en fibres. Je peux économiser 15 à 20 000 francs par mois si la demande est forte.
Les fibres de coton sont ensuite remises au tisserand qui lui fait appel à sa créativité pour produire un tissu en plusieurs motifs.
Il faut avoir de la passion et de la créativité pour pratiquer ce métier. C'est le seul travail que j'ai appris de la vie.
Des tissus bien sollicités lors des festivals culturels. Le tissu local fait partie intégrante de l'identité culturelle du plateau d'Ogon, comme l'explique Yacouba Traoré, producteur de Bogola.
Bien avant la crise sécuritaire, je revendais le bogolan dans les pays comme la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud et le Nigeria. Le marché était vraiment rentable.
La confection du tissu est une tradition qui a résisté au temps. Malgré l'impact de la crise sécuritaire sur les secteurs, les artisans se donnent comme mission de revaloriser les textiles traditionnels. Tidjani Ouedraogo pour VOA Afrique Koro.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Lubumbashi, c'est sur 102.8 FM en République démocratique du Congo.
Encouragé par la sous-représentation et l'augmentation du nombre d'électeurs inscrits pour les dernières élections générales, les jeunes Sud-Africains ont pris la décision d'entrer dans l'espace politique. Irfan Mangera est un jeune activiste qui s'est présenté pour un siège de parlementaire dans la province de Gauteng. Ces derniers temps, il a passé le plus clair de son temps à faire campagne pour courtiser les électeurs qui se disent frustrés par ce qu'ils considèrent comme l'échec de l'ancienne génération. Davantage avec Issan Afidji, le récit est de Gini Niwa.
Mandjera, 27 ans, n'était même pas né lorsque l'Afrique du Sud a organisé ses premières élections démocratiques post-apartheid il y a 30 ans. Il estime que la jeune génération doit participer au processus politique et se présenter aux élections afin de pouvoir changer les choses dans son pays.
Beaucoup de jeunes sont désillusionnés et ont l'impression que le système ne leur est pas favorable. Et à juste titre, parce que le Parlement est rempli de personnes âgées. Il n'y a pas de véritable représentation des jeunes dans les instances dirigeantes. Ils ont donc l'impression de ne pas avoir leur place. C'est donc très difficile.
Selon une étude menée par le groupe de suivi parlementaire, les personnes âgées de 15 à 34 ans représentent plus de 63% de la population sud-africaine, mais elles n'occupent que 9% des sièges parlementaires. L'âge moyen des députés qui occupent actuellement des sièges au Parlement est de 59 ans. L'appel à une plus grande représentation des jeunes dans la politique sud-africaine se fait de plus en plus pressante pour les élections générales du 29 mai.
Ce voyage m'a montré que le système doit changer pour créer plus de représentation. Et une véritable représentation, pas seulement une approche symbolique pour traiter ce problème. L'obstacle, c'est aussi que les jeunes doivent se prendre au sérieux. Une fois que nous l'avons fait, nous constatons que nous pouvons nous soutenir les uns les autres. Nous pouvons acquérir suffisamment de pouvoir pour élire certains d'entre nous à des postes de direction.
Malgré 30 ans de démocratie, les jeunes Sud-Africains sont mécontents de la montée en flèche du taux du chômage des jeunes dans le pays. Selon les données du gouvernement, le taux de chômage était de 32% au quatrième trimestre 2023. Au cours de cette période, le taux de chômage des jeunes âgés de 15 à 34 ans a augmenté pour atteindre 44%.
We've not seen youth. Nous n'avons pas vu les problèmes des jeunes être pris au sérieux en ce qui concerne la drogue et le peu de soutien aux loisirs, au sport, aux arts et à la culture. Nous constatons un manque d'appréciation et de soutien à l'égard des jeunes qui disent à la société et aux dirigeants que nous sommes de plus en plus désespérés, que nous n'avons pas accès à l'éducation et que nous n'avons pas la possibilité d'améliorer nos compétences.
Bien que la commission électorale qui supervise les élections ait lancé une campagne pour que davantage de jeunes s'inscrivent sur les listes électorales, des chiffres récents indiquent que près de 14 millions de personnes, une majorité de jeunes, ne sont toujours pas inscrites. De jeunes politiciens comme Mandjera pensent que les jeunes doivent être le moteur du changement dans le système politique sud-africain.
Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'être plus nombreux à l'intérieur à mener ce combat pour que nous puissions aussi inspirer notre génération vers une nouvelle mission qui construise un pays sûr, égal et prospère.
Irfan Mandjera et son nouveau parti politique tentent de faire face à un environnement difficile en tentant de rivaliser avec des partis politiques plus anciens et plus établis comme le Congrès national africain et l'Alliance démocratique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala au Cameroun sur Radio Balafon FM 90.2.
Une étude publiée mardi affirme que la haine et l'extrémisme ont augmenté aux États-Unis en 2023, avec un nombre record de nationalistes blancs et de groupes anti-homosexuels tentant de saper la démocratie inclusive du pays. Véronica Balderas Iglesias de la VOA détaille les conclusions des chercheurs et leurs implications pour l'élection présidentielle de novembre. Le récit est de Jacques Aristide.
Dans son rapport, le Southern Poverty Law Center indique que l'an dernier, la communauté LGBT a été l'une des principales cibles de la haine et de l'extrémisme en Amérique. L'association ajoute que la rhétorique haineuse et les théories du complot anti-gouvernemental ont eu un impact négatif sur les immigrants, les personnes de couleur et les communautés religieuses minoritaires. Via Skype, RG Craven du Southern Poverty Law Center.
Ces extrémistes, ceux qui s'opposent à la démocratie inclusive, ont passé l'année dernière à légitimer l'insurrection, à présenter la haine comme vertueuse et à transformer les théories du complot en courant de pensée dominant. Et ils se préparent tous, je dirais, à l'une des élections les plus importantes de notre histoire.
Pour RG Craven, les groupes anti-gouvernementaux s'immiscent dans la politique avec un objectif précis.
Limiter le pluralisme, c'est limiter la participation, c'est limiter la démocratie elle-même.
En vue de la présidentielle de novembre, le démocrate Joe Biden se présente comme la seule option viable pour mettre un terme à la montée des discours de haine.
Je ne vais pas laisser Donald Trump transformer l'Amérique en un pays qui ne croit pas à l'honnêteté, à la décence et au traitement des gens avec respect. Et certainement, je ne laisserai pas Donald Trump transformer l'Amérique en un pays rempli de colère, de ressentiment et de haine.
Quand il était président, Donald Trump avait provoqué la polémique après un rassemblement nationaliste blanc en 2017 à Charlottesville, en Virginie. Il avait alors accusé les manifestants et contre-manifestants d'être responsables des violents affrontements. Un suprémaciste blanc au volant d'une voiture avait délibérément foncé sur une foule de contre-manifestants, tuant une femme et blessant plus de 30 personnes. À l'époque, Trump avait parlé d'une démonstration flagrante de haine, d'intolérance et de violence venant de plusieurs fronts. Trump, actuel candidat républicain à la Maison-Blanche, s'est rangé du côté de groupes qui ont mené campagne en faveur de l'interdiction de livres, des groupes tels que Moms for Liberty, que le Southern Poverty Law Center a de nouveau qualifié en 2023 de groupe extrémiste anti-gouvernemental opposé à l'éducation inclusive.
La gauche radicale calomnie même Moms for Liberty en qualifiant l'organisation de supposé groupe haineux. Vous êtes un groupe haineux. Pouvez-vous imaginer cela? Moms for Liberty, un groupe haineux?
Moms for Liberty a décliné la demande d'interview de la VOA. Des experts sont d'avis que les candidats doivent faire attention à leur discours à l'approche du scrutin. Till Rothschild est professeur de sociologie à l'université Roger Williams.
For Biden to continue to
que Biden continue d'être président et de parler de paix, mais aussi de l'importance de voter en général. En ce qui concerne l'ancien président Trump, il se trouve dans une situation délicate car il obtient certainement plus de soutien lorsqu'il utilise un langage extrémiste, mais il marginalise également les populations susceptibles de voter.
Rothschild suggère aux électeurs de se méfier des théories du complot dans les médias grand public et sociaux qui pourraient alimenter davantage la haine et l'extrémisme.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro. À la mise en onde, Georges-Léonard Sagnot. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.